Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Il est 7h07, c'est RMC en ce 20 décembre 2020. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous. Un bon réveil, merci d'être avec nous. Le dimanche 7h-10h, vous le savez, c'est votre rendez-vous auto avec Jean-Luc Moreau. Rebonjour Jean-Luc.
Bonjour monsieur François, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs.
Alors Jean-Luc, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'accueillir Michel et de prendre le cours normal de nos émissions, un mot quand même sur l'avenir de cette émission. Vous le savez, on en a un petit peu parlé la semaine dernière, mais votre week-end des experts s'arrête. Et oui, on est en train de vivre nos derniers week-ends ensemble, puisque à partir de début janvier, vous retrouverez sur RMC et sur BFM TV une matinale commune entre 6h et 10h qui évidemment sera complètement différente de ce que vous avez l'habitude de retrouver. Donc Jean-Luc, nous sommes là encore cette semaine, la semaine prochaine et puis le tout premier week-end de janvier et ensuite ce sera donc ce nouveau rendez-vous que vous retrouverez sur RMC. Voilà.
C'est même la dernière émission en direct aujourd'hui, hein, François, on peut le dire, puisque l'émission du 3 janvier sera enregistrée.
Donc, exactement.
Si vous voulez nous faire un coucou et donner vos réactions, alors il y a beaucoup de gens évidemment qui sont déçus, on le comprend un petit peu. Voilà.
Alors posez aussi vos questions autour.
Oui, non, mais évidemment, on va faire une émission normale, on va essayer de faire une émission normale. Mais bon, ça reste la dernière, voilà, je vais vous dire, franchement, ça fait quand même un peu de peine, ça fait 17 ans.
Ça me fait quelque chose.
Oui, ça me fait quelque chose.
Les Régis Cardestin. Eh oui, c'est comme ça. En tout cas, vous pouvez nous appeler au 3216 pour poser vos questions, pour nous faire un petit coucou. Direct Studio aussi, hein, pour lire tous vos messages. Au menu de ces 3 heures d'auto, on a beaucoup de choses quand même. Hein. Donc, on l'a dit, l'essai de la semaine, ce sera la DS3 Crossback. Notre question pas si bête, peut-on refuser une immatriculation ridicule?
Bah oui.
Oui, ça peut arriver. On en voit parfois quand on est au feu rouge, on voit des trucs rigolos.
Bien, bien sûr. Il y a des gens qui ont des caca, des WC, des PQ. Voilà.
Bah oui, bien sûr. Hein. C'est...
Bah oui.
Et qu'est-ce qu'on peut faire là? Tiens, bah, on verra ça.
Avec le SIV, c'est pas simple. Hein.
Avec le?
Le SIV, vous savez, le nouveau système d'immatriculation.
Ah, je croyais que c'était une nouvelle voiture.
Non, le SUV.
Non, je sais. Sur le vif aussi, alcool et drogue au volant. Tiens, vous voulez vous rendre hommage aujourd'hui, Jean-Luc? Fête, confinement, usage et comportement des 18-24 ans en France. On en parlera avec le responsable prévention de la MAF.
Exactement, qui a fait une petite enquête. Qu'est-ce qu'ils vont faire les jeunes là, pour le réveillon de Noël et du jour de l'an? Bon, normalement, ils devraient être sages. Est-ce qu'ils vont réellement être sages? A priori, ça ne va pas être le cas d'après l'enquête qui a été faite.
C'est clair. Et puis, je le disais tout à l'heure, on va revenir sur le marché automobile de 2020, les nouvelles règles de circulation pendant le couvre-feu, et toutes vos questions auto-l'actu de la semaine aussi dans le monde de l'automobile, et toutes vos questions, je disais, au 3216 ou via l'appli RMC et Direct Studio. Merci d'être là. On salue aussi tous ceux qui nous écoutent en podcast, hein, qui n'ont peut-être pas le courage de se réveiller si tôt le dimanche, le samedi, le dimanche matin. Mais je sais que vous êtes très nombreux à réécouter l'émission en replay. Et donc, on vous salue à vous aussi. Jean-Luc, c'est parti. On accueille Michel qui est là. Bonjour Michel.
Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Luc, François, merci de m'avoir sélectionné.
Mais de rien, c'est 50 euros, ça augmente un petit peu hein, la sélection, hein, étant donné que c'est
problème,
les dernières émissions.
Problème. Je vous enverrai le chèque.
Aïe. Vous me l'envoyez à moi, hein, parce que si vous l'envoyez à François,
oui.
Ça fait 17 ans que je ne les vois pas les chèques. Alors, donc,
j'en ai plein pour
voilà.
Vous.
Et puis, pendant que j'y pense, on va vous regretter, hein, parce que vous étiez une émission formidable, hein, ça va nous manquer. Hein.
Eh oui, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, mon cher Michel. On n'y peut rien. Mais
voilà.
Vous savez, vous pourrez retrouver Jean-Luc, parce que Jean-Luc n'est pas présent sur les réseaux sociaux et je lui ai dit qu'il fallait qu'il crée un compte Facebook.
Vous êtes sur Facebook,
c'est pas vrai.
J'ai un compte Facebook.
Alléluia.
Alléluia,
les amis.
Voilà, donc je vous indiquerai ce que je ferai l'année prochaine sur mon compte Facebook.
Non, mais même, ça permettra à tous ceux qui le veulent de garder contact avec vous.
Oui, de garder contact avec moi, effectivement.
Parce que Jean-Luc, Jean-Luc était le seul journaliste à ne pas avoir un compte sur un réseau social. Et ça y est, là, il s'est senti un petit peu obligé.
François, c'était volontaire. J'ai même des gens qui arrivaient à trouver mon numéro de portable et qui m'appelaient chez moi pour me dire, voilà, je veux changer de voiture. Qu'est-ce que vous me conseillez?
Mais ça, c'est moi qui le donnais à l'antenne.
C'est ça, ouais. Donc, je me suis dit, si je suis sur un réseau social, ça va juste être un cauchemar.
C'est bien pratique aujourd'hui, vous savez, dans ce type de situation.
J'ai compris, effectivement, que c'était indispensable. Donc, depuis cette semaine, voilà, j'ai un compte Facebook.
Je vais m'abonner à votre page, alors.
Et ben voilà. Alors, ma page n'est pas encore... je me suis déjà inscrit sur Facebook. J'ai déjà donc un compte Facebook.
Ah oui,
je
vais faire donc ensuite... en août, c'est bon, on est en août.
Je vais faire une page qui va, évidemment, être alimentée avec plein d'articles. Parce que ça fait juste 33 ans que j'écris des choses, donc je pense que je vais pouvoir mettre des trucs en ligne intéressants. Et puis surtout, j'ai la capacité d'analyser des informations comme on a eu cette semaine. Par exemple, sur l'IFPEN, on en parlera tout à l'heure, vous allez voir qu'il faut regarder un petit peu plus loin que juste le communiqué qui a été fait par le ministère.
Et l'essentiel, hein, c'est que voilà, tous ceux qui le veulent puissent garder contact avec vous pour vous faire un petit coucou et puis surtout pour voilà, être sensibilisés.
Oui, et puis ceux qui veulent me proposer du boulot peuvent le faire aussi.
Pizza YOLO, par exemple, ça vous va?
Ouais, je peux faire le ménage, passer l'aspirateur, enfin voilà.
C'est vrai,
ouais,
aussi.
Oui, bien sûr. Hein.
Ouais, l'aspirateur, je suis pas sûr. Hein.
Si, moi je l'ai fait hier.
Vous l'avez fait hier? Ouais, ouais. Michel, on vous écoute, qu'est-ce qui vous arrive alors?
Voilà. Alors, disons que j'ai un C4 Picasso 130 FLET 6 automatique et j'aurais voulu acheter, parce que il y a 15 jours, vous avez fait la publicité là sur la.
La publicité?
Nouvelle Dacia.
Ah ouais. Non, pas de la publicité. On a parlé de la nouvelle Dacia, qui pour qui pour moi d'ailleurs est la voiture de l'année. Hein.
Voilà. Alors c'est pour ça. Vous m'avez un peu. Alors disons, vis-à-vis de mon C4, j'aurais voulu savoir le confort. Bon, j'ai regardé, c'est la TCE 90. CVT, boîte automatique, je crois pas qu'il y ait aucun...
Non, mais alors le problème, effectivement, sur cette nouvelle Dacia Sandero, c'est que la version la plus intéressante, celle qui est vendue essence GPL, donc le TCE 100, d'abord qui est un petit peu plus puissant, n'est pas disponible avec la boîte automatique. Allez comprendre pourquoi. Bon, cela dit, la boîte automatique qui est disponible sur cette Dacia, c'est pas un modèle d'agrément, hein. C'est pas un truc de dernière génération, donc on loupe pas grand chose si on passe à côté de la boîte automatique. Il vaut mieux renoncer à la boîte automatique, prendre la boîte mécanique. La voiture, elle est très confortable. Elle est désormais correctement, enfin, c'est même au-delà de correctement finie. Elle est bien équipée. Elle est plutôt bien finie. Esthétiquement, bon, je vous laisserai seul juge, mais moi, je la trouve plutôt sexy. On peut l'acheter parce qu'on la trouve jolie. Ce qui, au départ, n'était pas le cas. Les toutes premières Dacia, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Bien sûr.
On achetait un prix. On n'achetait pas autre chose. On achetait un outil pour se déplacer. Aujourd'hui, on peut acheter une Dacia par goût. Elle est jolie, cette Dacia Sandero. Et en plus, elle a tout bon partout. Et avec un prix d'accès qui est en dessous de 7000 euros, en dessous de 9000 euros, pardon, il n'y a pas de concurrente sur le marché. Bon, après, comme je vous dis, le souci, effectivement, ce serait bien qu'ils nous mettent une vraie boîte automatique, double embrayage. Alors, chaque chose en son temps. On va dire que jusqu'à présent, à chaque fois que Dacia nous avait dit non, ça, il n'y aura pas, c'est toujours arrivé un petit peu après. Donc, il est possible qu'il y ait des Dacia avec des boîtes double embrayage dans un avenir récent. Il y aura d'ailleurs une Dacia électrique bientôt, hein, un petit SUV qui sera électrique, qui sera proposé à un prix défiant toute concurrence, vraisemblablement en France en dessous de 15 000 euros, on l'espère. Donc ça évolue. Il y aura sans doute des Dacia hybrides dans un avenir plus ou moins lointain. Il y aura sans doute peut-être des Dacia éthanol aussi bientôt. Il y en a eu par le passé, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Donc vous voyez, ça va évoluer.
Exactement.
Voilà. D'accord. Donc c'est si vous avez décidé d'acheter cette voiture-là, franchement.
Voilà. Alors vis-à-vis de mon C4 Picasso, vis-à-vis de mon C4 Picasso, ça ne fera pas trop de décalage au point de vue confort.
Alors au point de vue confort, non, parce que le confort il est extrêmement bon. Par contre, c'est une voiture qui est moins imposante que le C4 Picasso. Donc
voilà,
vous aurez un peu moins de place dedans, vous aurez un coffre un peu plus petit, même si dans la catégorie, avec un coffre qui fait 410 litres quand même, la Sandero elle est plutôt bien placée. Ça reste une voiture compacte. Elle fait moins de 4,10 m de long. Par rapport à votre Picasso, il y a quand même il y a presque 30 cm de moins. Donc évidemment, à un moment ou à un autre, vous allez vous retrouver, quand vous aurez besoin de charger une cuisinière à l'arrière, vous allez vous dire, c'est plus petit que le Picasso, mais ça, c'est normal.
Ouais, d'accord, mais ça, c'est fini maintenant, alors.
Ah oui, vous l'utilisez pour quoi, la voiture?
Oh, ben, pour se promener, disons, je fais roupeux, elle fait 15 000 par an, alors. Hein.
Ouais, ben, prenez, franchement, hein, prenez la version GPL essence. Le GP en ce moment, il est environ, allez, on va dire à 84 centimes d'euros le litre. Ça consomme un petit peu plus quand on est au GPL, mais ça fait, moi j'ai fait 7 litres 4 de GPL au 100 km. Faites le calcul, vous allez voir, hein, c'est
à, oui, tout à fait.
Ça correspond à peu près à un diesel en prix au kilomètre. Par contre, en termes de pollution, c'est quand même beaucoup mieux.
Voilà, c'est ça.
Michel, bon, merci. À bientôt.
Oui, est-ce que je peux vous poser une toute petite question là ?
Allez-y, ouais, oui.
Allez-y.
Merci, c'est gentil. Alors, disons, il y a Citroën qui vient de nous envoyer un courrier en disant que nos modèles, comme je vous disais, ces quatre Picasso, là, ils vont être repris pour un contrôle aux problèmes de freinage et courroie de distribution fluide. Vous connaissez ça ?
Il a un moteur 1 litre 2 PureTech, votre Picasso ?
Oui,
il y a des problèmes. En fait, c'est ce qu'on appelle une courroie humide. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des fuites dans le moteur. Hein. C'est juste une courroie qui baigne dans l'huile, ce qui est normalement être censé durer beaucoup plus longtemps qu'une courroie de distribution classique. Sauf que là, ils ont des soucis de dégradation. Est-ce que c'est lié à l'huile ? Est-ce que c'est lié à la façon...
Donc, ils vont lui changer la courroie, là ?
Oui, ils vont vérifier. Alors, peut-être pas la changer, mais ils vont vérifier. D'abord. Vous avez tout intérêt. C'est des rappels préventifs. Hein. C'est pour éviter justement tout un tas de problèmes.
Il faut faire ça. Hein.
Oui, il faut le faire. Et sur le circuit de freinage, bon, bien évidemment, il faut faire ce contrôle.
Christophe Le Boulanger nous laisse un message sympa sur Direct Studio, voilà, qui est un fidèle auditeur. Il nous dit que grâce à vous, Jean-Luc, il a acheté une Zoé il y a quelques mois et il en est très, très heureux. Et c'est vrai que là encore, au-delà du fait que on se retrouvait tous les dimanches, vous avez, peut-être changer aussi certaines habitudes hein, des automobilistes français, mine de rien.
Ça n'a pas été facile au début, parce que quand vous dites aux gens qu'achètent 73% de diesel, attention, on vous ment sur le diesel, et demain, le marché du diesel va s'effondrer quand on saura la vérité. Bon, voilà, hein, la vérité, on a fini par la savoir. Tiens, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Un constructeur français qui, pour l'instant, est nommé X, mais on se doute qui ça va être, va être épinglé par l'Europe. Il a été démontré qu'il y avait des logiciels truqueurs sur les diesels de ce constructeur. Voilà.
Eh bien, dites-moi. Hein. Bonne année 2021.
Je pense que là, donc, il n'y a pas que Volkswagen, mais comme je vous le disais, quand on a parlé du Dieselgate, tout le monde a dit oulala, Volkswagen, je vous l'avais dit à l'époque, tous les constructeurs trichaient d'une façon ou d'une autre. Hein, il y en a qui trichaient avec des logiciels, il y en a qui trichaient en contournant un peu l'esprit de la loi. Tout le monde trichait. Aujourd'hui, on va le revoir là dans la minute verte. Tout le monde est rentré dans le rang.
Oui, c'est ça.
Hein, il y a plus de tricheurs dans la classe.
Jean-Luc, il est temps de retrouver notre bon plan sécurité.
RMC, votre auto.
Hey, Daniel, explique-moi, c'est quoi le plan là ?
Le bon plan sécurité.
Et ce plan génial, messieurs, est signé
Jean-Luc Moreau.
Alors, Jean-Luc, c'est peut-être un peu compliqué à suivre, mais depuis le 15 décembre, les règles de circulation ont changé. Qu'est-ce que ça modifie pour les automobilistes ?
Oui, tiens, ça a échappé à personne. Le confinement a été levé mardi dernier. Tout le monde a compris qu'on pouvait désormais se déplacer sans attestation entre 6h et 20h. Il n'y a plus également de périmètre à respecter. On peut aller où on veut.
Ça veut dire qu'on peut se déplacer d'une région à une autre en voiture.
Oui, alors les déplacements entre les régions sont désormais autorisés. Vous pouvez vous rendre avec votre voiture sur votre lieu de vacances, par exemple, à une condition, il faut que vous soyez arrivé avant 20h. Bon, la seule exception, ce sera pour le réveillon de Noël. Le couvre-feu ne s'appliquera pas pour la nuit du 24 décembre.
Oui, c'était pratique aussi pour le Père Noël, parce que s'il se fait choper et contrôler et qu'il ne peut pas livrer les cadeaux...
On peut pas livrer la nuit en dehors du 24.
Et voilà, c'est ça. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont mis cette mesure en place. Car la nouveauté, c'est un couvre-feu donc de 20h à 6h. Jean-Luc, vous l'avez dit. Est-ce que ça signifie que les déplacements sont totalement interdits pendant la nuit ?
Alors, dans l'esprit, oui. Passer 20h, faut rester chez soi, sauf exception. Vous savez que depuis le début de cette crise, en fait, les exceptions sont légion. Hein. Alors, il est en effet possible de prendre sa voiture avec des motifs dérogatoires. C'est toujours les mêmes. Hein. C'est des motifs professionnels, les motifs familiaux impériaux, les missions d'intérêt général, les raisons médicales et les besoins des animaux de compagnie. Cela dit, si vous vous baladez en voiture pour promener votre chien, s'il fait dans la voiture, c'est pas terrible non plus. Mais
oui,
vous pouvez prendre la voiture pour l'emmener un petit peu plus loin, se promener dans les bois.
Non, ou alors il y a pas mal de gens qui font ça. Ils prennent la voiture, ils accrochent la laisse derrière la voiture et puis ils essaient de ne pas aller trop vite. Il ne faut pas dépasser 50.
Ou ceux qui ne voient pas très bien accrochent le Labrador devant la voiture. Et quand il y a du mou dans la laisse, c'est que ça freine.
C'est que ça freine, oui. Vous êtes bête.
Ouais.
D'accord, mais est-ce qu'il faut une attestation justifiant notre déplacement ?
Oui, pendant le couvre-feu, l'attestation de déplacement dérogatoire est toujours obligatoire, accompagnée, il faut bien le préciser, des papiers justificatifs. Hein, c'est par exemple une attestation de l'employeur si vous allez travailler. D'ailleurs, à ce propos, si vous êtes coincé dans les bouchons et que vous ne pouvez pas arriver chez vous avant 20h, le ministre de l'Intérieur indique qu'une tolérance pourra être accordée à condition d'être proche de l'arrivée. Si à 20h30 vous êtes dans votre voiture, que vous habitez, je sais pas, en région parisienne et que vous êtes en Normandie pour aller voir Miss France, vous allez vous faire coincer, quoi.
Ah oui, oui, en plus bravo Miss France, oui, bravo, Miss Normandie, bravo, Miss Normandie qui a gagné hier. Et si on fait un long trajet pour aller en vacances ?
Bah, le mieux dans ce cas-là, c'est de pouvoir justifier d'une location, par exemple. Hein, même si le ministre a précisé que les contrôles seraient renforcés pendant les vacances, il semble évident que les forces de l'ordre feront preuve d'un certain discernement. Hein, si vous partez en vacances, je sais pas, en voiture, dans le sud de la France, et que vous partez de Lille, si vous arrivez un peu après 20h,
oui,
et que vous faites arrêter par la police, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Et dans le cas contraire, on se fait attraper, ça coûte combien ?
Alors, les sanctions restent les mêmes, mais j'ai l'impression que les gens ne les connaissent pas, hein, ça peut être chaud. Hein. C'est une contravention de 4e classe pour la première infraction, c'est-à-dire 135€. Un deuxième déplacement interdit dans les 15 jours suivant une première infraction constitue une contravention, cette fois, de 5e classe, c'est-à-dire 200€. Enfin, plus de 3 violations dans le mois constituent un délit. Cette fois, c'est punissable d'une peine de prison de 6 mois et d'une amende de 3 750€. Si vous étiez en voiture, ça peut même entraîner une suspension de votre permis de conduire pour une durée de 3 ans maximum. Bon, je pense pas qu'il y ait de telles peines qui ont été prononcées, à mon avis. C'est plus dissuasif qu'autre chose.
On va revenir dans un instant, Jean-Luc, il est 7h23, Thierry sera avec nous, je souhaite changer de voiture et je voulais savoir s'il y avait une hybride qui soit 4x4 en électrique. Voilà, on va rentrer dans les détails, il va nous raconter tout ça. Et puis je vous rappelle que vous pouvez nous joindre 32-16, l'appli RMC, Direct Studio, la météo et on est de retour, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h,
votre auto,
François Sorel,
Jean-Luc Moreau.
Nous voilà de retour, 7h28, le week-end des experts, l'automobile, dont vous pouvez bien sûr retrouver Jean-Luc Moreau sur Facebook. Hein, voilà, il a créé sa page avec une belle photo où on le voit à moto, c'est magnifique. On dirait Johnny.
Non.
Salut, c'est Jean-Luc.
Oui, mais je préfère pas. Mais vous savez que j'ai fait de la moto avec Johnny.
Vous avez fait de la moto avec Johnny ?
Ben oui, on a traversé les États-Unis en Harley Davidson.
Oui, parce qu'il en a fait deux dans sa vie, je crois.
Il en a fait plusieurs, même je crois qu'il en a fait trois.
Ah,
mais
oui.
En fait, il y a eu.
Il y a une période où vous étiez.
Le dernier rebelle, ouais. On était parti de Daytona pendant la fête de la moto au mois de février.
C'est pour ça que l'aigle tatoué sur votre bras.
Ça a que coucou. Ouais.
C'est ça, hein.
Non, c'est pas tout à fait ça. Ah, j'aurais des histoires incroyables à vous raconter sur ça, mais il faudrait qu'on refasse encore 15 ans d'émissions.
Oui, ça va être. Bah, vous les raconterez sur Facebook, il n'y a pas de souci.
Oui, oui.
Des vidéos, ouais. des petits trucs comme ça. Tiens, juste un mot, parce que vous êtes nombreux aussi à vous demander ce que je vais devenir. Alors, humblement, moi, je vais rester dans le groupe, puisque j'arrive sur BFM Business à partir du 4 janvier pour présenter une émission sur les technologies qui s'appelle Tech & Co, du lundi au jeudi, de 20h à 22h. Voilà, et ce sera avec plaisir que donc je poursuivrai tout ce que je fais, mais cette fois-ci sur la tech, sur BFM Business. Jean-Luc, Thierry est avec nous. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Bonjour Thierry.
Thierry de la Marne.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour messieurs.
On vous écoute, Thierry, allez-y. Oui.
Bonjour messieurs, bonjour à Françoise aussi.
Oui, bonjour Thierry.
Thierry, oui, ça reste entre nous. Ça fait quand même des années que François fait croire que c'est François, alors que j'ai lâché le truc sans le faire exprès, vous voyez.
C'est l'émotion, vous savez, c'est pour ça. Mais il m'aime tellement qu'il m'imagine en Françoise. Moi non, je l'imagine pas quand même, hein, personnellement. Thierry, qu'est-ce qui vous arrive ? Racontez-nous.
Oui, j'aimerais changer de voiture et je cherche une voiture qui soit 4x4 mais qu'en électrique. Une hybride, mais qui soit 4x4 qu'en électrique. Est-ce que ça existe ?
Oui, pratiquement tous les modèles hybrides qui offrent 4 roues motrices, les roues motrices supplémentaires sont des roues motrices électriques. Et ça a du sens. Alors pourquoi vous voulez 4x4 d'ailleurs ? Tiens, c'est quoi la raison ?
Bah, c'est comme la semaine dernière, vous avez parler des pneus. Il y a des fois pour faire des démarrages en côte ou des.
Ouais, vous êtes
ou dans la boue. On n'a pas besoin de grande vitesse pour.
D'accord. Vous êtes dans une région montagneuse et tout, Thierry?
Parce que. Dans la Marne.
La Marne. Ouais, bon, la Marne. Oui, c'est vallonné. Et puis vous n'êtes pas trop loin de la montagne, c'est peut-être ça aussi.
Non, mais je pense, je vais en vacances un petit peu dans les montagnes, vers D'accord. les Vosges et tout comme. Enfin, bon, après.
Alors moi, pour le vivre depuis 15 ans au quotidien, je peux vous assurer que la traction électrique, à partir du moment où on a évidemment des pneus adaptés, ça veut dire des pneus hiver.
Ouais,
hein.
Voilà.
Parce que une année, c'est pareil, je vais vous raconter. Alors c'est dommage, tiens, je mettrai peut-être la vidéo sur ma page Facebook, mais une année en rentrant de rétromobile où il neigeait beaucoup à Paris, c'était il y a 3 ans, je crois. Mm-hmm. J'habite en haut d'une côte qui est à 19%, et je me suis dit, bon, il neigeait très très fort, hein, c'était la nuit, et je me suis dit, c'est pas grave, moi j'ai un truc 4 roues motrices, ça va grimper la côte. Je n'ai jamais réussi à monter la côte en voiture, bien évidemment, mais là où c'est plus drôle, c'est que j'ai jamais réussi à la monter à pied non plus. Voilà. Ça glissait tellement, il a fallu que je découpe des couvertures que j'attache autour de mes souliers. Enfin bref, la vidéo, j'ai fait des vidéos à ce moment-là, c'est à mourir de rire. Donc si vous avez envie de rigoler, je pense que je vais les mettre en ligne. Ça fera rigoler tout le monde.
Par-dessus les chaussures.
Et bien c'est exactement ça, vous savez quoi, j'avais une couverture dans ma voiture et j'avais un petit couteau, j'ai découpé des lanières dans la couverture que j'ai entourées autour de mes souliers, ce qui m'a permis de monter la côte. Sinon, j'y arrivais pas. Alors tout ça pour vous dire que à partir du moment où on a 4 roues motrices, donc 2 motrices électriques, pourquoi je dis électrique? Parce que la gestion du couple est beaucoup plus fine que lorsque les roues motrices sont entraînées par un moteur thermique. Donc c'est beaucoup plus efficace sur un terrain glissant. Donc dans la neige, un 4x4, un hybride 4x4 avec 2 roues électriques, ça patine pratiquement jamais. Toujours si vous avez des pneus qui sont adaptés. Moi, pour être allé au sport d'hiver avec ma voiture, je peux vous assurer que je passais à plein d'endroits où d'autres véhicules ne passaient pas, y compris des 4x4. Donc c'est réellement efficace. Alors sur le marché, en plus, vous avez quand même du choix. Chez Honda, il y a le CR-V hybride qui est disponible en 4 roues motrices. C'est quoi votre budget et qu'est-ce que vous voulez comme taille de voiture? C'est peut-être la première question.
Moi, j'avais vu le RAV4.
Bah, le RAV4, très bien. Le RAV4 existe en 4x4 également. Et même pour ceux qui ne veulent pas forcément aller à la montagne ou rouler dans des conditions de route glissante, il est préférable de prendre, si vous l'achetez d'occasion, hein, parce que neuf, il y a quand même un surcoût qui est assez important, mais si vous l'achetez d'occasion, il est préférable de prendre une version 4x4. Pourquoi ? Parce que c'est plus homogène à conduire. Sinon, vous avez le moteur électrique, le moteur thermique sur les roues uniquement avant, et quand c'est un petit peu gras, sur le mouillé par exemple, le train avant est vite dépassé par l'arrivée du couple. Donc c'est beaucoup plus homogène en conduite en 4 roues motrices. Donc vous avez le RAV4, vous avez chez Lexus l'équivalent, c'est le NX300H, que vous pouvez regarder aussi, hein, si vous l'achetez d'occasion, on peut trouver des prix intéressants. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez le Honda CR-V hybride aussi.
Le C5 Aircross, il ne fait pas ça
Non, alors après... sur les hybrides rechargeables, vous avez pratiquement tous ceux qui sont 4 roues motrices ont effectivement les roues arrière qui sont motricité électrique. Alors, le C5, il est hybride rechargeable, mais c'est un budget qui va être plus important. D'abord, c'est un modèle qui vient juste de sortir. Et si vous voulez la version 4 roues motrices, il faut prendre la version la plus puissante qui est évidemment beaucoup plus chère. Donc on n'est pas du tout dans le même budget. Hein. Entre un Toyota RAV4 d'occasion que vous pouvez toucher entre 20 à 25 000 euros et un C5 Aircross avec les 4 roues motrices qui va être à 45 000 euros, ça fait quand même une sacrée différence.
Oui.
Voilà, mais ça reste un bon choix. Hein. C'est un excellent choix.
Ils sont pas en 4x4 permanent, il faut qu'on le...
Non, c'est pas. Voilà. Mais vous n'avez pas besoin de 4x4 permanent. Le seul moment où vraiment ceux qui ont besoin d'un 4x4 permanent, c'est ceux qui sont sur les pistes en Afrique, des choses comme ça. Bon, en France, on a quand même des routes, donc on n'a pas besoin d'un 4x4 permanent. On se rend compte, d'ailleurs ça s'affiche au tableau de bord, quand on passe en 4 roues motrices, entre guillemets, on se rend compte que c'est vraiment très peu de temps dans l'année. Ce qui permet le reste du temps de faire des économies de carburant. Quand on est en 4x4 permanent, évidemment, on consomme un peu plus. Voilà. Mais avec un moteur électrique qui entraîne les roues, là par contre c'est pas de la consommation en plus, ça vous aide au démarrage, vous avez du couple sur les 4 roues, et quand vous êtes en décélération, il y a 2 moteurs électriques qui récupèrent l'énergie, donc c'est mieux qu'un seul.
D'accord.
Voilà. Bon, il y a un petit supplément de poids, mais très très étonnamment, si on prend l'exemple du RAV4, par exemple, la consommation entre le modèle 4 roues motrices et 2 roues motrices, il n'y a pas d'écart. Dans la vraie vie, il n'y a pas d'écart.
D'accord. Donc, vous avez dit le RAV4 et la Lexus aussi.
Lexus NX 300H.
D'accord. Okay.
Voilà, c'est la même chaîne de traction, moteur thermique 4 cylindres, plus moteur électrique, puissance totale 197 chevaux, en plus ça marche pas mal. Donc, et puis, vous avez là, pour le coup, on peut en parler, la fiabilité du système Toyota. Hein, ça, c'est...
Oui, mais ça, oui.
On peut presque y aller les yeux fermés. Hein. Et aujourd'hui, on n'a plus d'incertitude sur la durabilité de la batterie. Vous voyez, ma voiture, elle a 15 ans, la batterie est encore bonne, elle est encore à 80%, donc ça me laisse encore un peu de marge.
Voilà Thierry.
Merci bien.
Merci à vous.
Allez, ben
bonne journée
fin.
Thierry.
Puis, c'est encore dommage de ne pas vous retrouver l'année prochaine.
Eh ben écoutez, voilà. Ben, en tout cas, merci. Voilà, vous pourrez dire. J'ai été l'un des derniers.
Oui,
oui.
Merci Thierry, à bientôt.
Bonne journée Thierry.
32-16, l'appli RMC Direct Studio. On va retrouver vos questions dans un instant. Mais auparavant, c'est la Minute Verte.
RMC, votre auto.
La Minute Verte.
Alors, là Jean-Luc, on va rentrer dans le dur, là, à 7h37,
vous allez nous réveiller. C'est très intéressant. Ouais, non, je vais vous réveiller, mais vous allez voir que c'est très intéressant, parce qu'il y a, il y a plein de choses dans cette
étude. On va parler des normes, des normes de pollution.
Oui.
Hein.
Alors, depuis le Dieselgate, on a compris que les constructeurs s'arrangeaient un peu avec les normes anti-pollution, c'est-à-dire qu'il y a des véhicules qui, dans la vraie vie, ne respectaient absolument pas les normes anti-pollution. Alors, oui. Certains trichaient avec des logiciels, d'autres ne trichaient pas avec des logiciels, mais se permettaient quand même... entre les tests sur banc rouleau et la réalité des écarts qui parfois étaient de 1 à 10 quand même. Hein. Mmh. Attention, hein, on ne parle pas de 2% d'erreur. Hein.
Oui, oui.
On parle de variations de 1 à 10. Donc, il a été décidé pour savoir si les nouveaux véhicules étaient rentrés dans les clous. C'était il y a 2 ans déjà, le gouvernement a demandé à l'IFPEN, hein, l'Institut français du pétrole et des nouvelles énergies, d'étudier, de faire des tests avec des véhicules d'occasion, donc qui avaient déjà un peu roulé.
Mmh.
De la dernière génération, donc qui répondent à la norme Euro 6B Temp. Pourquoi on dit Temp ? C'est temporaire, oui, parce que la nouvelle norme, on en a parlé récemment, elle va changer au 1er janvier pour devenir totale. Voilà, donc ces nouveaux véhicules ont été testés avec un protocole sur route. On a mesuré les consommations, on a mesuré les rejets d'oxyde d'azote, on a mesuré les émissions de particules et on en a déduit à partir des consommations les émissions de CO2. On a voulu surtout savoir si ils étaient dans les clous en matière de réglementation. Et la bonne nouvelle, c'est que tout, à part deux modèles diesel qui disposaient d'une technologie que les constructeurs ont aujourd'hui abandonnée, qui s'appelle le NOx Trap, qui est une technologie pas du tout efficace, que j'ai dénoncé d'ailleurs, ça me fait plaisir, hein, j'avais encore raison sur ça, que j'ai dénoncé maintes fois à l'antenne en disant, voilà, ça c'est de la dépollution low cost qui ne marche que sur le cycle d'homologation, mm-hmm. Hormis deux modèles qui avaient ce type de dépollution et qui sont pas dans les clous de la réglementation, tous les autres ont des émissions moyennes de NOx qui respectent la norme. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Maintenant, après, quand on regarde dans le détail, vous savez, on nous dit le diesel a un avantage en matière de consommation sur l'essence, donc ça permet d'avoir des émissions de CO2 qui sont plus basses. Ça, c'est vrai. On a des émissions de CO2 qui sont inférieures de 11% sur les modèles diesel par rapport au modèle essence. Mais, et là c'est intéressant parce que l'IFPEN est allé un petit peu plus loin, ils ont mesuré un gaz dont moi je parlais de temps en temps, qui s'appelle le protoxyde d'azote. Alors le protoxyde d'azote,
c'est
pas un gaz toxique. Tiens, si vous allez chez le dentiste, on peut vous endormir avec du protoxyde d'azote. Il y a des jeunes qui se shootent au protoxyde d'azote. C'est le gaz hilarant, en fait.
Ah oui.
C'est ça, le protoxyde d'azote. Sauf que le protoxyde d'azote, il a ce qu'on appelle un PRG, un potentiel de réchauffement global, 300 fois supérieur au CO2. Ah. Donc, c'est un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant. Donc, il faut le prendre en compte. On peut pas dire, il y en a qui sortent d'échappement, on peut pas dire, on le prend pas en compte. Donc, quand on le prend en compte, on passe de 11% pour notre diesel à 6% de gaz à effet de serre simplement de gagner sur un diesel. Et comme on sait que quand on fabrique du diesel, on émet 10% de CO2 en plus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au final, un diesel, le bilan CO2 global, il est moins bon qu'un moteur essence. Donc le principal avantage qu'on nous avait vendu jusqu'à présent au niveau du diesel, malheureusement, il n'existe, dans la réalité, il n'existe pas. Ça, c'est une première chose. Après, sur les émissions de particules, il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est que on se rend compte que les émissions de particules, finalement, des moteurs essence récents sont plus importantes que celles des moteurs diesel. Et c'est pas négligeable, c'est 2,1 fois plus important. Alors on va dire, bah ouais, mais on nous a dit les diesels ça pollue, il y a des particules, machin. Alors c'est pareil, il faut voir derrière ce chiffre brut, il y a d'autres données qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte la nature des particules qui sont émises. Sur le diesel, c'est ce qu'on appelle du black carbon, et là tous les médecins sont d'accord pour dire il y a un vrai problème avec le black carbon, c'est ça qui peut être cancérigène. Donc les particules diesel sont moins nombreuses, mais elles sont plus toxiques. Et il y a une deuxième chose qu'il faut prendre en compte aussi dans cette étude, c'est qu'il y a des modèles qui ont essence qui ont été testés alors qu'ils n'avaient pas de filtre à particules. Alors que maintenant, tous les modèles essence qui sortent en injection directe sont équipés obligatoirement d'un filtre à particules. Il y a autre chose également, alors que ne dit pas cette étude, c'est qu'aujourd'hui, la première source de particules sur un véhicule moderne, c'est plus le moteur, sont les freins. C'est les particules de freinage, alors qui, elles, en plus, sont très toxiques. On en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission. On avait reçu M. Rocacera, je ne me souviens plus de son prénom, je crois que c'est Christophe, qui a mis au point un système, une sorte d'aspirateur pour les particules de freinage. D'accord. Et ça, on va voir arriver ça sur nos voitures bientôt.
C'est quoi, c'est les disques, en fait?
En fait, mais vous usez, en fait, vous avez des plaquettes de frein qui s'usent quand vous freinez. À chaque fois que ces plaquettes s'usent, évidemment, ça génère des poussières et ces poussières sont extrêmement toxiques. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit appareil qui, au moment du freinage, c'est une petite turbine qui va aspirer les particules de frein et les retenir dans un petit filtre. Et puis vous changez le filtre comme vous changez de temps en temps le filtre à air sur votre véhicule. Donc demain, ça va généraliser. Normalement, les premiers modèles équipés doivent arriver en 2021, les premiers modèles de série équipés de ça. Donc il faut maintenant s'attaquer aux particules de freinage. Il y a une autre solution aussi pour s'attaquer aux particules de freinage, c'est que les véhicules hybrides émettent moitié moins de particules de frein. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en décélération, c'est du freinage
électrique.
Et même sur un véhicule, sur la Zoé par exemple, François, quand on ne conduit pas comme François Sorel, parce que lui, il accélère à fond puis il freine.
Je fais plus attention. Au début, je faisais ça. Maintenant. Ouais.
Quand on conduit gentiment, on peut ne se servir pratiquement que du freinage électrique. Et là, on est à zéro particule de freinage.
D'autant que maintenant, il y a deux positions sur la boîte. Il y a le D et le B. Le B, apporte un freinage plus important quand on lâche l'accélérateur. Ouais.
Est-ce qu'on verra, on va voir, d'ailleurs, il y a une chronique bientôt, là, je crois que c'est celle du 3, où on verra que. Qu'est-ce qui est plus écologique, avoir beaucoup de régénération en décélération ou de la roulement? Et voilà. Vous en ai déjà parlé précédemment, mais là, il y a Volkswagen qui a fait une vraie étude sur le sujet, c'est intéressant. Donc voilà, en fait, cette étude, aujourd'hui, nous apprend aussi, on a tiré sur les hybrides rechargeables, là, il y a pas longtemps, et sur les hybrides, en nous disant, on trimballe les grosses batteries, etc., etc. Il y a un vrai gain quand même. Alors en CO2, les émissions d'un véhicule hybride par rapport à un véhicule équivalent thermique, c'est 12% de moins. C'est même sensible, encore plus sensible quand on est en agglomération, ce que je dis depuis longtemps, c'est 33% de moins grâce à cette récupération d'énergie, etc. Donc je vous invite quand même à aller jeter un œil. Elle est en ligne sur pratiquement tous les ministères, mais elle est en ligne sur le ministère de l'Environnement, cette étude. Ça vous donnera une petite idée des choses, mais voilà. Les voitures, globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que les voitures ont beaucoup progressé ces dernières années. Au moins, le Dieselgate a servi à ça. C'est à obliger les constructeurs à être dans les clous de la norme.
Jean-Luc, on va revenir dans un instant, 8h moins le quart. Jean-Louis sera avec nous. Il va nous parler, évidemment, du remplacement de son véhicule. Il a remplacé son Audi TDI diesel par un Kia Iniro. Il va nous en parler et je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez nous joindre 3216, l'appli RMC Direct Studio. On revient juste après ceci, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h,
votre auto.
François Sorel,
Jean-Luc Moreau.
Voilà, 7h47, on est de retour, le week-end des experts, l'automobile. On enchaîne avec Jean-Louis qui est avec nous. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour François, bonjour Jean-Luc.
Bonjour Jean-Louis.
Bienvenue.
On est obligé. Si je ne le faisais pas, on me dirait, mais comment vous avez pu passer à côté de Jean-Louis?
Oui, et puis en plus, c'est tellement classe, Jean-Louis. Ouais, ouais. Ces blagues, cet humour fin nous manquera.
Donc vous aviez une Audi.
Oui, puis vous êtes en Seine-et-Marne, c'est ça, hein, Jean-Louis?
Oui. Je vous appelle de la Seine-et-Marne, voilà.
D'accord.
Donc vous avez acheté un Iniro pour remplacer votre Audi TDI. Déjà, tiens, vous l'avez le Iniro?
Oui,
vous avez roulé avec. Vous en pensez quoi, tiens?
J'ai déjà fait pratiquement 10 000 km avec depuis le mois de juin.
D'accord.
Voilà. Oui, je roule pas mal parce qu'en fait, je suis originaire du Sud-Ouest et donc je suis souvent la route avec.
Ouais. Mais vous allez voir, ce qui est très étonnant, on se rend compte que les gens qui passent à l'électrique, avant de passer à l'électrique, se disent oui, bon, je vais prendre une voiture électrique, je roule peu, donc ça ira. Et au final, quand ils ont le véhicule électrique, après, ils ne roulent, s'ils ont plusieurs véhicules, ils ne roulent plus qu'avec le véhicule électrique. Bon, je parle évidemment pas des très grands voyages pour aller en vacances, mais au quotidien, ils se servent au maximum du véhicule électrique et on se rend compte que leur kilométrage moyen par rapport à ce qu'ils faisaient en thermique avant augmente. Donc, dans votre cas, il est possible aussi que vous rouliez plus maintenant que vous êtes équipé avec un Iniro.
Oui, tout à fait. C'est le véhicule dont je me sers quotidiennement et même, comme je vous l'ai dit, pour partir en vacances.
Ah oui, bah voilà. Mais vous partez pas en vacances très loin, c'est pour ça.
Si, je vais jusqu'à Bayonne, en fait.
D'accord. Ah ouais.
Depuis la Seine-et-Marne, ça demande un peu d'organisation, bien sûr, mais bon, on y arrive très facilement.
Oui, c'est ça. Ça demande une planification avant de partir pour savoir où sont les bornes, pour savoir si elles marchent. Voilà. Ça sera le gros sujet, hein, je pense, des années à venir, hein, les bornes de charge.
Oui, c'est un sujet quand même qui est important.
Voilà. Bon, sinon, qu'est-ce qui vous arrive, vous, avec votre...
Alors, voilà. Je vous appelle... Je suis, un peu remonté après les services de l'État.
D'accord.
Parce que, voilà, comme vous le savez, j'avais une Audi 80 TDI que j'ai mis à la casse.
Oui, donc vous pouvez bénéficier de la prime de conversion, c'est ça?
Voilà. Et donc, comme elle était de 1994, j'ouvrais droit à la prime de conversion.
Oui.
De 2 500 €.
D'accord. Vous avez fait la demande sur primealaconversion.gouv.fr, puisqu'en fait, ça se fait en ligne.
Oui, voilà, j'ai fait mon dossier en ligne.
D'accord.
Tout s'est bien passé. J'ai rempli les papiers qui allaient bien, format PDF, tout ça. L'application ne m'a rien signalé de particulier. J'ai rempli mon dossier jusqu'au bout, je l'ai expédié. Et 2 mois plus tard, j'ai essuyé un refus.
Ah bon?
Voilà. Alors, je vous explique pourquoi. La lettre que j'ai reçue de l'ASP, donc c'est le service gouvernemental,
ouais,
stipule que, étant donné que le garage m'a octroyé le bonus écologique,
ouais,
il n'a pas voulu s'occuper de la prime à la conversion.
Il aurait fallu que le garage fasse les deux, ou que vous fassiez vous-même les deux.
Oui, exactement.
Ah ouais. Mais et le concessionnaire vous a pas dit ça?
Non, le concessionnaire m'a dit que j'avais la possibilité de le faire moi-même.
Il fallait faire les deux.
Oui, voilà. Mais ce que je dois dire, c'est que sur l'application gouvernementale sur Internet,
c'est pas précisé, c'est ça?
Ce n'est pas précisé.
Ouais. Ben écoutez, votre cas va servir au moins ceux qui nous écoutent et qui peuvent bénéficier à la fois d'un bonus écologique et d'une prime à la conversion. Effectivement, il faut faire la demande en même temps. Alors, ça embête les concessionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils doivent avancer l'argent. Hein. Donc, dans votre cas, 7 000 € de bonus écologique plus 2 500 € de prime à la conversion, ça fait quand même pas mal de trésorerie.
C'est leur travail, non?
Oui, d'accord. Ouais. Mais cette année, ils ont quand même des grosses difficultés. Hein. Ouais. On sait bien que l'année, on va être à 1 600 000 voitures vendues au lieu de 2 200 000. Donc ça veut dire que les concessionnaires vont vraiment souffrir. Ils ont des problèmes de trésorerie. Donc c'est pour ça sans doute que votre concessionnaire ne l'a pas fait. Il l'a fait évidemment pour le bonus, parce que sinon vous auriez peut-être pas acheté ce véhicule-là.
Et oui.
Mais il l'a pas fait pour la prime à la conversion. C'est un peu dommage, perdre 2 500 € comme ça, et surtout laisser 2 500 € à l'État, parce qu'en fait, c'est même pas le concessionnaire.
Il n'y a rien à faire, là, à votre avis?
Bah non, à partir du moment où vous avez eu un refus, vous pouvez remonter au créneau, mais ils vous diront la même chose. Hein.
Ouais.
Mais c'est dur, très ça. Intéressant, Jean-Louis. Hein. Votre cas va. Alors, c'est malheureux pour vous, mais au moins, ça va servir aux gens qui nous écoutent et qui peuvent cumuler les deux.
Allez,
faut bien penser à cumuler les deux, justement.
Très bien, merci beaucoup Jean-Louis. Avant de retrouver la météo et les infos de 8h sur RMC, c'est l'actu de la semaine, Jean-Luc, dans le monde de l'automobile. Et l'année 2021 démarrera bien par une nouvelle grille de malus.
Et oui, le Parlement a définitivement adopté la loi de finances qui entérine un abaissement du seuil de déclenchement du malus. À partir du 1er janvier, les voitures seront taxées à partir de 133 grammes par kilomètre de CO2 au lieu de 138 grammes par kilomètre actuellement. Autre petit changement, bienvenue avec des grosses guillemets, hein, le montant maximal du malus passera de 20 000 à 30 000 euros. Et voilà. Le malus au poids, bon, supprimé par les sénateurs, fait aussi son retour. Il devrait s'appliquer sur le véhicule de plus de 1 tonne 8, hors électrique et hybride rechargeable, à partir du 1er janvier 2022, s'il n'est pas retoqué à l'Europe, par l'Europe, ce qui est fort probable, puisque je vous ai dit qu'il n'y a aucun véhicule français qui sera taxé. Donc, c'est du protectionnisme. Donc, ça, l'Europe n'acceptera pas cette taxe-là, c'est sûr et certain.
Non, en tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moins, les véhicules électriques ou hybrides
sont pas concernés
par cette prise de poids. Le DAB+ devient obligatoire sur les véhicules neufs à partir d'aujourd'hui.
Et oui, c'est une directive européenne de 2018 qui entre en vigueur ce 20 décembre 2020. Elle oblige les constructeurs automobiles à équiper leurs véhicules neufs d'un récepteur compatible DAB+. Ce standard de diffusion numérique par voie hertzienne terrestre devrait peu à peu remplacer la FM. À noter qu'avant cette date, 92% des véhicules neufs étaient déjà équipés de cette possibilité de réception, outre une qualité supérieure, mais donc pas dans tous les cas de figure. Hein, François, vous en aviez parlé.
Oui. Hein,
le DAB+ va redistribuer les cartes dans le monde de la radio, ce qui explique les réticences de certaines stations. C'est le cas, je crois, de RMC qui voit pas. Enfin, toutes les grandes stations FM voient pas d'un bon œil l'arrivée du DAB+. Hein, ça, c'est clair.
Bah, en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est aussi un problème économique parce que finalement, la FM va rester. Vous savez que diffuser en FM sur tout un pays, ça coûte beaucoup d'argent.
Ça coûte très cher.
Ça coûte plusieurs millions d'euros. Et il faudrait rajouter encore cette somme-là pour émettre sur d'autres fréquences en DAB+. Et aujourd'hui, c'est vrai que même s'il y a une obligation de tous les véhicules neufs d'aujourd'hui de l'avoir, il y a encore un parc très très faible. Donc il va falloir des années avant que ça ait un sens. Donc c'est pour ça qu'il y a cette réticence. 2020 a décidément été une année triste aussi en matière d'automobile.
Oui, on peut même dire une année sans éclat, car le parc automobile a franchement manqué de couleurs cette année. En effet, pas moins de 80% des voitures nouvellement produites étaient soit de couleur blanche, noire ou grise.
Ah oui.
Dans le détail, en Europe, le blanc et le gris partagent la première place du podium avec 25% du marché chacun. Le noir arrive en troisième position avec 21%. La première couleur moins triste, c'est le bleu pour 10% des véhicules, puis le rouge avec 5%. Bon, le vert pomme, comme sur votre voiture, c'est beaucoup plus rare. Et l'orange sur la Fuego, alors là, ça devient carrément anecdotique.
Eh oui.
À part pour les véhicules de la DDE,
qui ont fait remonter les quotas.
Non, mais c'est vrai qu'on achète de plus en plus des voitures avec des couleurs tristes. Hein. Souvenez-vous, dans les années 50, il y avait plein de couleurs chatoyantes.
Je pense pas que ce soit triste. Je pense que c'est surtout pour être discret, pour se fondre un petit peu dans la masse, quoi. Voilà. Voilà. Non,
faut dire une voiture blanche aussi, les réparations sont moins onéreuses sur une peinture blanche.
Sur une peinture blanche.
Que sur une peinture métallisée.
Et voilà, exactement. Ou nacrée, ou tous ces trucs-là. Jean-Luc, il est bientôt 8h. On va revenir après la météo et les infos pour notre deuxième heure. On retrouvera Maître Rémi Jossomme tout à l'heure. L'essai de la semaine, le DS3 Crossback. Et puis, bien entendu, vos questions dès maintenant. 3216, l'appli RMC Direct Studio. Météo, info, on est de retour. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.